Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Elon Musk fait des siennes sous X. Depuis l'attaque du Hamas lancée le 7 octobre, les faux contenus se propagent sur X, ex-Twitter, à une vitesse inédite. Une désinformation largement facilitée par les nouvelles règles mises en place par son propriétaire, article de TF1 Info. Les images et les informations sur la situation à Gaza et dans l'État hébreu inondent les réseaux sociaux. Dans ce nouvel acte d'un conflit déjà complexe et alimenté par des campagnes de propagande, les contenus partagés sur X ajoutent à la confusion, tant ils sont nombreux à ne pas avoir été vérifiés au préalable. Le groupe se défend et assure avoir modéré les publications en ligne en limitant les contenus sensibles, en surveillant les discours antisémites ou bien en supprimant les comptes affiliés au Hamas nouvellement créés. Autre information devenue virale, celle du bombardement d'une église à Gaza par l'armée israélienne. La rumeur a rapidement circulé grâce à plusieurs comptes bleus certifiés, répétant une affirmation non vérifiée qui n'avait aucune preuve pour l'étayer. D'après Elliot Higgins, journaliste et fondateur du média d'investigation Bellingcat. Elle a été démentie le soir même par l'église Saint Porphyrius sur Facebook. Mais en recherchant Christian Church, église chrétienne, sur Twitter, la fausse information apparaît encore en priorité, poussée par ces fameux comptes certifiés. Le résultat de changements opérés par Elon Musk, qui a décidé d'accorder le badge bleu à des comptes pas forcément fiables, monnayant 8 dollars par mois. La Commission européenne a menacé le réseau social X de sanctions, sommant son patron Elon Musk de rendre des comptes sous 24 heures sur la circulation de fausses informations et d'images violentes liées au conflit en Israël. Vidéos humiliantes d'otages, corps décapités, assassinats filmés. Elon Musk réaffirme régulièrement sa vision de la liberté d'expression. Extrait d'un article de La Voix du Nord. Refusant toute censure, même s'il assure que la plateforme respecte les lois de chaque pays en la matière. Il s'est tout de même attiré de nombreuses critiques pour avoir incité ses quelques 160 millions de followers sur X à s'informer sur le conflit Israël-Hamas en suivant deux comptes pourtant connus pour répandre de fausses informations. Le milliardaire a ensuite effacé son poste, mais il avait été vu des millions de fois. Après son rachat de Twitter l'an dernier, Elon Musk a procédé à une vague massive de licenciements qui a décimé les équipes de modération.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Opération d'information sur les risques d'inondation du Morgon et Niseran ce dimanche 15 octobre de 10h30 à midi au marché couvert de Villefranche à l'initiative du syndicat mixte des rivières du Beaujolais. La compagnie Recycloun se produira dans une représentation de théâtre burlesque afin de sensibiliser aux risques d'inondation d'une façon ludique et comique. L'occasion d'un rappel aux risques par téléphone avec Jérémy Goberti, chargé de mission prévention inondation pour le syndicat mixte des rivières du Beaujolais.
Le risque surtout dont on souhaitait parler ce dimanche avec l'intervention de la compagnie Recycloun, c'était principalement le risque d'inondation lié au Morgon, même si le risque de Niseran est aussi présent, mais parce que ce Morgon-là, il traverse, et certains l'ont peut-être oublié, tout le centre-ville de Villefranche, et en cas de crue importante, comme en 2008 par exemple, il peut vraiment inonder le centre-ville et puis et que certains quartiers, plus en amont ou plus en aval, voilà, entre 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau dans les rues. Donc on souhaitait rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne l'auraient jamais su, que voilà, ces inondations peuvent arriver dans le centre de Villefranche.
Quels sont les moyens de protection en cas d'inondation?
Alors la protection, ça passe pour plusieurs choses. Réduire le risque d'inondation, notre vulnérabilité face aux inondations, on va avoir plusieurs approches. La première approche, c'est ce que fait notre syndicat, le syndicat mixte des rivières du Beaujolais, c'est de faire des travaux, des aménagements pour déjà réduire la fréquence et l'intensité des inondations, réduire les débordements des rivières. Notamment sur le Morgon, c'est un projet qui est en cours et qui devrait se finaliser en 2025-2026, projet d'aménagement en amont de Glaizé pour réduire la probabilité qu'il y ait effectivement des inondations qui touchent Villefranche du fait des débordements du Morgon. Ça, c'est le premier volet. Mais ces aménagements ne vont pas complètement supprimer le risque. Il y aura des secteurs qui pourront encore être inondés jusqu'à ce qu'on appelle la crue cinquantennale. Et au-delà de la crue cinquantennale, donc il y a une chance sur 50 chaque année d'advenir, au-delà de cette crue, nos systèmes ne seront plus efficaces. Donc, il faut toujours être conscient que malgré ces travaux, les inondations seront toujours possibles dans le centre de Villefranche et à Glaizé.
En matière de prévention, comment les habitants peuvent anticiper pour se protéger?
La première étape, la première protection, c'est déjà la connaissance du risque. C'est tout à fait l'objet de l'intervention des clowns dimanche, comme je disais, pour rappeler que ce risque existe. Et c'est déjà une étape, c'est déjà un pas vers notre propre protection, puisque on n'est pas pris par surprise. Si on est bien renseigné, on sait à quoi est due cette inondation, au Morgon, dans quel cas éventuellement elle peut se produire, on peut un peu anticiper. C'est déjà une première étape. L'expérience montre que c'est une étape qui est très importante. Voilà, les situations dangereuses arrivent surtout quand les gens sont mal informés. Et c'est déjà une première étape. Après, si on veut aller plus loin, on peut s'informer, savoir comment réagir face aux inondations. Être vigilant quand Météo France nous alerte sur des pluies importantes, des risques d'inondations, même regarder le ciel, si on habite pas loin du Morgon, surveiller s'il monte vite en cas de pluie, voilà. Essayer d'anticiper et savoir réagir pour d'une part ne pas se mettre en danger, par exemple en s'engageant dans une route inondée ou en allant chercher ses enfants à l'école pendant une inondation. Ça, ce sont des choses qui sont déconseillées parce qu'on risque de se mettre plus en danger qu'en restant chez soi. Et deuxièmement, si on a le temps et la possibilité de mettre à l'abri les objets de valeur qui pourraient être inondables. Donc comme je disais, à Villefranche, les crues du Morgon vont pas dépasser 1 mètre, 1 mètre 50. Déjà, on sait que si on surélève certains des objets les plus précieux, on en sauve une partie.
Et dans les conseils pratiques d'anticipation, une troisième étape plus technique.
La troisième étape qui va encore plus loin, c'est de s'adapter en anticipation aux inondations. Adapter son logement en faisant par exemple poser des batardeaux donc devant les portes d'entrée qui vont jusqu'à 50 cm de haut, empêcher complètement l'eau de rentrer. En surélevant les équipements les plus sensibles de manière durable, comme une chaudière ou l'électroménager, pour le mettre hors d'eau, une étape qui est plus lourde à mettre en œuvre, mais le syndicat aide les habitants à faire ce pas-là à travers des diagnostics gratuits des logements et puis le financement des travaux qui pourraient être préconisés.
Et pour conclure, est-il prévu des exercices de simulation aux inondations auprès des habitants ?
Oui, dimanche, c'est vraiment une ludique et rigolote pour sensibiliser aux risques. Pour plus de connaissances sur les consignes, il y a notre site internet, bien sûr. On a édité une brochure qui récapitule un peu tout ce que j'ai dit. Et il doit y avoir des documents communaux aussi, puisque les communes informent aussi sur les risques, et notamment sur les inondations. Si vous me posez la question des exercices, ce sont plutôt les communes qui vont organiser des exercices de crise, hein, que ça peut être sur une inondation ou un risque technologique, ou ça peut être un exercice juste qui concerne les services de secours ou de manière plus large. Moi, j'ai pas connaissance de tels exercices sur Villefranche ou Glaizé, et ça peut être organisé, mais généralement ça n'implique pas toute la population. La population, c'est son meilleur réflexe, effectivement, ça sera de s'informer. Il y a l'Institut des risques majeurs aussi qui informe. Voilà, il y a pas mal de sites qui donnent des informations sur les bonnes conduites à tenir en cas d'inondation. Et voilà, mais déjà l'avoir en tête, avoir en tête la nature du risque et ce qu'on peut faire pour essayer de s'en prémunir autant que possible, c'est déjà une étape qui est importante. Si tout le monde faisait ça, ça serait déjà une très bonne chose.
Quelqu'un a envie d'essayer? On va aller chercher plus profond. C'est avec humour et le sourire que le syndicat mixte des rivières du Beaujolais sensibilise au risque d'inondation du Morgon et du Niseran ce dimanche 14 octobre avec la complicité de la compagnie Recycloun autour d'une représentation théâtrale burlesque de 10h30 à midi au marché couvert à Villefranche-sur-Saône. Soyez nombreux! Le CIVIRAD, développé par l'ACRIRAD, Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la radioactivité, est un réseau citoyen de vigilance pour contribuer à une information indépendante sur les retombées radioactives. En 2019, l'ACRIRAD a ouvert les missions de son réseau à la surveillance de l'impact des INB, les installations nucléaires de base, en se focalisant sur les centrales nucléaires de production d'électricité en fonctionnement. L'objectif est de réaliser des analyses radiométriques régulières et des prélèvements de sol afin de connaître le niveau radiologique de référence du sol. La matinée du dimanche 14 octobre sera l'occasion de prélèvements d'échantillons autour de la clôture de la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme. Les raisons de cette prévoyance avec Roland Desbordes, président de la CRIRAD, par téléphone.
Dans le groupe de travail sur le dossier a rendu son rapport. L'avis est favorable à la prolongation du réacteur numéro 1 de Tricastin. Quelques petits détails de réserve, mais vraiment des détails. L'avis est favorable. En tant que membre du bureau de la CRI, la commission locale d'information, la CRIRAD, donc que je représente, a été sollicitée pour voter sur cet avis. Et donc j'ai voté non. Je vais donner un avis défavorable à cet avis. Pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est ce que je craignais. Il y a tout un tas de sujets importants qui n'ont pas été vus, traités dans le cadre du groupe de travail. En tout cas, j'en avais noté au moins deux, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y en a un qui concerne la cuve du réacteur. Le groupe de travail ne s'est pas du tout intéressé à la cuve du réacteur numéro 1. Or, cette cuve a 42 ans aujourd'hui. Elle a été conçue à la base pour durer 40 ans, donc elle est déjà en dépassement. Et en plus, cette cuve, par rapport à une trentaine d'autres réacteurs du même type en France, elle présente des défauts, qu'on appelle des défauts sous revêtement, c'est-à-dire des défauts qu'on ne voit pas en surface, qui sont des fissures en dessous de du revêtement interne de la cuve. Ces fissures, on pose des questions, c'est quand on parle de fissures dans une cuve qui est soumise à de très grosses contraintes de température et de pression, on se pose des questions, est-ce que ces fissures ne vont pas lâcher ? Et donc, il y a un vrai questionnement à tenir par rapport à ça. Le sujet n'a pas été traité. Pourtant, à mon avis, il méritait largement qu'on s'en préoccupe.
Autre inquiétude au plus proche de l'actualité.
L'autre sujet qui est d'une actualité un peu plus locale cette fois, c'était aussi le séisme. On est dans une région sismique et il y a eu un séisme il y a 2 ans et demi, maintenant bien 2 ans et demi, c'est ça, au Teil en Ardèche. Ce séisme a ému tous les sismologues spécialistes des séismes qui ne s'attendaient absolument pas à un séisme aussi dévastateur à cet endroit-là. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont repenchés sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Or, la centrale se trouve à moins de 10 km et se trouve sur la même faille. Du coup, se poser la question, est-ce qu'on a bien fait le tour de la question pour savoir si le séisme du Teil s'était passé à la centrale, qu'est-ce que ça aurait donné ? Évidemment, il n'y a pas de réponse dans le dossier. EDF dit simplement, eh bien, on va étudier la question et on aura la réponse dans 2 ou 3 ans. Et d'ici là, le réacteur continue à fonctionner. Et la seule réserve qu'a formulée le groupe de travail, c'est de dire, on demandera à être tenu informé de la chose. Moi, j'estime que là, il y avait un sujet important qui n'a pas été traité correctement. Et ça concerne en particulier non seulement l'installation nucléaire elle-même, mais la digue qui alimente en eau l'installation. Et si la digue qui est fragilisée, on le sait ça depuis un bon moment, depuis 2017, on sait que cette digue est fragilisée, est-ce qu'elle résisterait à un séisme du type le Teil ? C'est une très bonne question. Malheureusement, nous n'avons pas la réponse.
Une matinée de prévention pour la CRIRAD, Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, ce dimanche 14 octobre, de prélèvement d'échantillons autour de la clôture de la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade,
Ma radio.